الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 28 من شهر شعبان لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس السابع من كتاب التوحيد للعلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 4 juin 2016 et nous entrons aujourd'hui, inshallah, dans le 7e cours de l'étude du livre de l'unicité. Ceci étant dit, nous sommes toujours dans le 2e chapitre. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Chapitre, les mérites du tawhid et son expiation des péchés. Nous avons terminé la lecture et l'étude du hadith de Ubadah radiyallahu ta'ala anhu et le hadith également de Itban ibn Malik radiyallahu anhu. Après cela, Cheikh al-Islam ibn Abdul Wahhab rahimahullah cite le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Je vous lis directement selon le sens, la traduction approximative. Il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous explique et nous raconte que Moussa alayhi salam a dit « Ya Rabb, ô Seigneur » et en réalité on peut dire « Ya Rabbu » et on peut aussi dire « Ya Rabbi » qu'il n'y a pas de faute. Que l'on dise « Rabbu » ou « Rabbi », les deux sont bons. « Ya Rabb, allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih » « Ô Seigneur, enseigne-moi une chose par laquelle je puisse t'évoquer et aussi t'invoquer, te solliciter. » « Qala qul ya Moussa » Il lui répondit « Dis ô Moussa, la ilaha illallah » La parole du tawhid. « Qala ya Rabb » Il répondit « Ô Seigneur » كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا Tous tes serviteurs disent cette parole. قَالَ يَا مُوسَى Il répondit, ô Moussa, لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِ Si les 7 cieux et leurs habitants, excepté Allah, subhanahu wa ta'ala, وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةِ Et les 7 terres étaient posées sur un plateau de la balance, ولا إله إلا الله في كفة إلا إله إلا الله sur l'autre plateau مالت بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله aurait pris le dessus et le plateau où on aurait posé لا إله إلا الله aurait été plus lourd que les 7 cieux et les 7 terres avec leurs habitants. الله أكبر لا إله إلا الله. Ce hadith est rapporté par l'imam Ibn Hibban et l'imam Al-Hakim qui l'a jugé authentique. Ceci étant dit, Al-Sheikh al-Albani rahimahullah a étudié l'authenticité de ce hadith et a sorti comme conclusion qu'il est faible car il y a dans les narrateurs la présence d'un dénommé Darraj Abu Samh. Et Darraj Abu Samh, dans les livres des savants du hadith, il est classé chez les rapporteurs faibles, donc desquels on ne prend pas le hadith. D'autant plus que Darraj Abu Samh a relaté ce hadith d'après le dénommé Abu al-Haytham, qui lui aussi est classé faible chez les savants du hadith. C'est pour cette raison que le récit a été jugé faible. Mais le sens qu'il contient est bon, il est vrai, et il est appuyé par un autre récit qui est authentique, rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Al-Hakim rahimahum Allah d'après Abdullah ibn Amr ibn Al-As radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal le messager a dit alayhi salatu wa salam inna nabiy Allah Nuhan sallallahu alayhi wa sallam le prophète d'Allah Nuh alayhi salatu wa salam لما حضرته الوفاة quand la mort est venue à lui, il était à l'agonie, proche de la mort. قال لابنه, il a dit à son fils, إني قاص عليك الوصية. Je vais à présent te faire part de mon testament. أمرك بثنتين وأنهاك عن ثنتين. Je t'ordonne deux choses et t'en interdis deux autres. Puis il a dit, حمك الله. أمرك بلا إله إلا الله. Je t'ordonne de dire لا إله إلا الله. Puis il a dit, فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة. Si l'on posait les sept cieux ainsi que les sept terres sur un plateau de la balance, وضعت لا إله إلا الله في كفة, et l'on posait لا إله إلا الله sur l'autre plateau, رجحت بهن لا إله إلا الله. سبحان الله, سبحان الله. Si on posait les sept cieux, les sept terres, sur le plateau d'une balance, et la parole la ilaha illallah sur le deuxième plateau, le plateau où on pose la ilaha illallah serait bien plus lourd encore que les sept cieux et les sept terres avec leurs habitants. Vous avez entendu cela? Et ça, ça vous montre la force du tawhid. Le hadith n'est pas fini. Nuh dit à son fils, ولو أن السماوات سبع والأراضين سبع كنا حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله. Il dit, et si les sept cieux et les sept terres formaient un rond, un cercle qui était condamné. Imaginez-vous une porte condamnée. Imaginez-vous les sept cieux, les sept terres, avec leur vasteté, leur immensité, leur taille incommensurable, et qu'on ne pourra décrire, même si on s'efforce à le faire jour et nuit. Si les sept cieux et les sept terres formaient un anneau, et si cet anneau était condamné solidement, قَسَمَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. La ilaha illallah aurait brisé cet anneau. Allahu Akbar. Allahumma nas'aluka al-jannah. Allahumma nas'aluka al-jannah. Allahumma nas'aluka al-jannah. Lorsque l'on apprend le tawhid, ce que l'on doit rechercher, c'est que le tawhid habite nos cœurs. Pas simplement de dire telle chose se divise en deux et telle autre en trois. Non. On doit chercher à faire entrer le tawhid dans le cœur. Et on ne parle pas comme certains groupes qui disent on cherche à faire rentrer la certitude, la certitude, la certitude dans le cœur. De quelle certitude tu parles? Sans ilm, sans science, sans kitab, sans sunna, sans Qur'an, sans fahm, sans compréhension des pieux prédécesseurs des sahaba et de ceux qui ont été éduqués par les compagnons. La vraie voie tracée par Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, c'est une parole qui peut détruire les sept cieux et les sept terres avec tous leurs habitants. Tellement cette parole est puissante. Tellement cette parole est forte. Elle détruit les sept cieux et les sept terres. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui guide les cœurs. On ne fait que transmettre. Et Allah tabaraka wa ta'ala fait ce qu'il veut. Il amène le haq dans le cœur de qui il veut. Et s'il ne veut pas, il ne le fait pas. Et il est tout puissant. Subhanahu wa ta'ala. Ceci étant dit, vous avez vu la force de cette parole. Et le mérite, la puissance de la parole la ilaha illallah. Seul quelqu'un qui n'est pas doué de raison peut ne pas comprendre ce genre de mots, ce genre de paroles prononcées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nuh, ici, qui a prononcé ces paroles. Et al-Sheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, waffaqahullah, waghafarallah, wathabbata, a dit concernant ce genre de hadith, cela nous enseigne que lorsque nous devons évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, on doit absolument prononcer ce qu'on appelle des phrases complètes, des phrases qui doivent être comprises, des phrases ayant un sens, des paroles sensées. Pourquoi il appuie sur cela? Car il existe des groupes et des sectes qui disent qu'il y a d'autres paroles dont on ne comprend pas l'essence, qui sont bonnes à prononcer. Et ça, on le trouve chez le soufisme. et les grands gourous du soufisme disent à leurs adeptes al-dhikru yanqasimu ila thalathati aqsam. Les vocations, le dhikr, se divise en trois. Il y a, écoutez bien, dhikrul amma, le dhikr pour la masse des gens, les gens bas, les gens de la masse qui ne connaissent pas les hauts degrés de la spiritualité selon eux. Ils disent dhikrul amma, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah qui brise les sept cieux et les sept terres, pour eux c'est dhikrul amma. Ensuite ils disent il y a dhikrul khassa, la parole de dhikr que les gens spécifiques, une partie bien spécifique, les gens haut placés prononcent. Ils disent c'est Allah. Et eux, qu'est-ce qu'ils font dans leur dhikr? Allah, 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 Allah. Et ils bougent leur tête dans tous les sens. Et il y a dhikru khassatil khassa, le dhikr des gens spécifiques, parmi les gens spécifiques. C'est-à-dire le dhikr, vraiment, si tu le fais, c'est que tu es du haut degré, tu fais partie des gens les plus vertueux, les plus élevés chez Allah, les plus aimés, les plus pieux. Ta piété, on ne peut même plus la décrire tellement tu es bon et tu es vertueux. Quel est ce dhikr? Écoutez bien. Hu. Wallahi alladhi la ilaha ghayra, que ces gens-là disent au début de mon cheminement dans le soufisme, je dis la ilaha illallah. Plus j'apprends, plus je prends de mon maître la spiritualité, plus je laisse la ilaha illallah et je commence à dire Allah, Allah, Allah. Plus j'avance, plus ma foi augmente, que j'arrive à des sens que les gens ne peuvent pas comprendre forcément. Donc je dis hu, 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 hu. Et c'est malheureusement, ils ont délaissé la ilaha illallah, cette parole qui pourrait briser les sept cieux, les sept terres, pour dire hu. Ils ont délaissé la ilaha illallah, kalimatu tawhid, la parole du tawhid, la parole de l'entrée au paradis, la parole du pardon des péchés, la parole aimée d'Allah, la parole prescrite par Allah, pour aller dire des paroles, pour aller prononcer des propos insensés qui malheureusement leur seront nuisibles le jour où ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a enseigné les bonnes paroles, la ilaha illallah. On doit dire des paroles sensées. La ilaha illallah, c'est le tawhid. Allahu akbar, c'est le ta'zim, c'est le fait d'immensifier. Subhanallah, c'est tanzih, le fait de déclarer exempt Allah, pur de tout défaut, de toute défaillance. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est l'isti'ana, c'est la demande d'aide d'Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Al-istirja', on reconnaît que l'on va revenir à Allah. Toutes les paroles que nous a enseignées notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont des propos sensés, des paroles qui pèsent lourdes sur la balance. Et ce n'est pas pour rien que le dernier hadith rapporté par l'imam al-Bukhari est celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que deux paroles sont légères sur la langue, très lourdes dans la balance et très aimées du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Et après les gens disent hum, réveillez-vous, ittaqullah rabbakum. Ceci étant dit, donc ce second hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad et l'imam al-Hakim d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, et il est jugé authentique par l'imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. Et cela nous montre que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah n'est pas un ignorant. Il n'est pas ignorant dans la science du hadith comme ses détracteurs l'ont prétendu. Non, au contraire, il a étudié et il a eu des grands professeurs dans la science du hadith, notamment à Médine, où il a étudié chez le cheikh Mohamed Hayat al-Sindi, et chez d'autres qu'il a rencontrés en Irak. Il connaît le hadith. Mais quand il a cité un hadith dont l'authenticité peut être discutable, il n'a fait cela qu'après avoir mentionné des textes indiscutables. Deuxièmement, il n'a pas tiré un jugement d'un hadith dont l'authenticité pourrait être discutable. Est-ce que c'est bien entendu? Vient après, à la fin de ce hadith, de ce chapitre, le hadith de At-Tirmidhi rahimahullah, hadith est authentique. D'après Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, « Qala Allah ta'ala, Allah élevé soit-il, a dit. » C'est donc un hadith Qudsi. Qu'est-ce qu'un hadith Qudsi? Une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'est pas dans le Coran. C'est-à-dire que Allah s'est exprimé, subhanahu wa ta'ala, Jibril l'a entendu, et l'a rapporté au messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même nous l'a transmis après cela. Et la différence entre le Coran et le hadith Qudsi, c'est que le Coran est indiscutable du point de vue de l'authenticité. Alors que le hadith Qudsi est comme les hadiths. Il entre dans les règles qui nous permettent, dans la science du hadith, de déterminer un hadith authentique d'un autre qui ne l'est pas. Aussi, lorsque l'on récite le Coran pour chaque lettre, comme le dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a 10 hasanat. Alif est une lettre, lam en est une autre, mim en est une autre. Ça fait donc 30. Alors que le hadith Qudsi, quand tu le lis, il n'y a pas les récompenses que tu gagnes en lisant le Coran. Et il y a aussi d'autres choses. Certains savants ont dit, le Coran, tu fais tes ablutions pour le lire, alors que le hadith Qudsi, c'est dans un livre, tu ne fais pas les ablutions, et d'autres choses encore. Quoi qu'il en soit, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يا ابن آدم ô fils d'Adam. Allah s'adresse à nous autres, les individus religieusement responsables. Ô fils d'Adam, hommes soyez-vous ou femmes, grands ou petits, faibles ou pauvres, tous autant que vous êtes, vous les besogneux, vous les faibles serviteurs, les enfants et la descendance de Adam, le premier homme. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. Si tu venais à moi avec autant de péchés que la terre pourrait en supporter. Subhanallah. Ce qu'on appelle en arabe قراب الأرض. أي ملء الأرض أو ما يقارب ملء الأرض. قراب الأرض c'est ce que la terre peut en contenir ou quelque chose de proche de ce que la terre peut contenir. Si tu venais à moi avec autant de péchés que la terre peut en contenir, ثم لقيتني, puis tu me rencontres, لا تشرك بي شيئا, sans rien m'associer, لا أتيتك بقرابها مغفرة, je viendrai à toi avec autant de péchés, autant de pardon. Astaghfirullah. Je viendrai à toi avec autant de pardon. Tu viens avec Allah, tu viens à Allah le jour dernier. Avec autant de péchés que la terre peut en supporter. Mais tu fais partie des gens du tawhid, toi. Qu'est-ce que tu gagnes? Allah vient à toi avec autant de pardon. Tu viens avec 1 milliard de péchés, il te pardonne 1 milliard de fois. Tu viens avec 10 milliards de péchés, il te pardonne 10 milliards de fois. Et quand on récite ces hadiths, ce n'est pas pour te dire, va faire 10 milliards de péchés. Allah va te pardonner 10 milliards de fois. C'est pour te dire, repens-toi Allah, apprends ta religion. Wa kun ala al-jadda. Soit sur le droit chemin, sur le tawhid, sur la sunna, et tu auras, inshallah, ces immenses récompenses promises par Allah. Le Cheikh Saleh al-Fawzan, puisse Allah le préserver, a dit, Fihi anna maghfirat al-dhunubi mashrutatun bitajannubi shirk. Il se trouve comme point à retenir dans ce récit que le pardon des péchés est conditionné par l'abandon du polythéisme. Car on l'a entendu, si tu venais à moi avec autant de péchés que la terre peut en supporter, mais sans rien m'associer, je viendrai à toi avec autant de pardon. Donc c'est la condition de ne pas faire de shirk. Deuxièmement, وَفِيهِ فَضْلُ التَّوْحِيدِ. Il y a dans ce récit les mérites du tawhid. Puisque celui qui meurt sur la ilaha illallah gagne cet immense mérite. Allah lui pardonne, subhanahu wa ta'ala. وَفِيهِ الرَّدُّ عَلَى الْخَوَارِجِ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ بِالْكَبَائِرِ. Il y a dans ce récit une réfutation, une réponse à l'ambiguïté émise par la secte des Khawarij qui taxe de mécréant quiconque commet un péché majeur. Ils disent, celui qui consomme l'alcool sort de l'islam. Celui qui ment sort de l'islam. Celui qui fornique sort de l'islam. Ça, c'est une réponse à cette ambiguïté, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens de ce hadith, Yarhamukallah, tant que tu ne commets pas de péché, je viendrai de shirk, je viendrai avec toi, je viendrai à toi avec autant de pardon que tu as de péché. C'est Allah qui le dit, subhanahu wa ta'ala. Wa fihi sa'atu fadlillahi wa rahmatuh. Il y a aussi comme point à retenir dans ce récit la vasteté, la grandeur de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et l'immensité de sa grâce. Walillahi alhamdu wal minna. Et c'est ainsi que s'achève l'étude du second chapitre, Bab Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub. Chapitre, les mérites du Tawhid et ce qu'il expie des péchés. Le troisième chapitre, je vous interrogerai au prochain cours, Inch'Allah. L'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a dit Bab Man haqqaqa al-Tawhid dakhala al-Jannata bi ghayri hisab. Wa qawli Allah ta'ala إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام لا هذا شيء آخر وقال والذين هم بربهم لا يشركون. Et enfin, donc il y a deux versets et le hadith عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة قلت أنا ثم قلت أما إني فلم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن قال ادعوا الله أن يجعلنا منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلنا منهم فقال سبقك بها عكاشة رواه الإمام البخاري. Il y a donc dans ce chapitre deux versets et un hadith. Le chapitre suivant, quiconque concrétise le tawhid entrera au paradis sans jugement. Quiconque concrétise le tawhid entrera au paradis sans jugement. Ce chapitre a été cité par l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans son livre magnifique, Kitab al-Tawhid. Donc ça, nous allons voir le lien qu'il y a entre ce chapitre et le livre. Avant de voir le lien qu'il y a entre ce chapitre et le chapitre précédent. Il a cité ce chapitre, excusez-moi, dans Kitab al-Tawhid, et le lien est clair, car le Cheikh a cité dans Kitab al-Tawhid le sens du Tawhid, ses mérites, et il va montrer que celui qui concrétise le Tawhid entrera au paradis. Donc ça a un lien avec le Tawhid, c'est pour cela que ce chapitre a été cité. Le lien qu'il y a entre ce chapitre Et le chapitre précédent, c'est pour montrer que il y a un degré supérieur à celui des mérites du tawhid. Les gens qui auront les mérites du tawhid pourront être nombreux, certes, mais il y a d'autres personnes qui atteindront un niveau bien plus élevé encore, qui est le degré de la concrétisation, de la réalisation du tawhid comme il se doit. C'est donc quelque chose de plus poussé, de plus fort et de plus haut que le simple mérite du tawhid. Car فضل التوحيد كل واحد له من فضل التوحيد ما له. Le mérite du tawhid, toute personne monothéiste va gagner des mérites du tawhid en fonction de son tawhid. Alors que تحقيق التوحيد, la concrétisation du tawhid, seuls ceux qui vont respecter des conditions que vous allez entendre inshallah vont l'avoir. C'est donc encore plus haut, encore plus important. Subhanallah. Vous vous souvenez du chapitre que l'on vient d'étudier? Tout ce qu'on a entendu, il y a un degré plus haut que ça encore. Subhanallah. Et c'est le lien qu'il y a entre les deux chapitres. C'est donc le troisième chapitre. Et le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous montre que dans ce chapitre, après avoir cité le sens du tawhid, sa réalité à travers le Coran et la Sunna, contrairement à ce que prétendent certains auteurs d'ouvrages de notre époque qui s'expriment dans la religion d'Allah sans se baser sur les preuves du Coran et de la Sunna, et chacun explique le tawhid selon son point de vue, selon ce qu'il a l'habitude ou selon ce qu'il a étudié. Il y a Al-Mu'tazila, Al-Ashi'ira, il y a les philosophes, et chacun a expliqué la ilaha illallah à sa manière. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, lui, s'est contenté de citer le Coran et la Sunna qui nous sont amplement suffisants pour clarifier le sens de la ilaha illallah. Après tout cela, il a cité le mérite de ce tawhid dont on a connu la réalité. Après avoir connu cela, il va maintenant nous montrer qu'il y a un degré élevé, celui de la concrétisation du tawhid. Le noble cheikh Abdul Razzaq Al-Badr, hafidhahullah ta'ala wa thabbata huwa wa aba, a dit que ce chapitre a été cité par l'auteur pour montrer qu'il y a un degré appelé la concrétisation du tawhid. Celui qui concrétise le tawhid entrera au paradis. Nous parlons ici de l'entrée immédiate, al-dukhul al-mutlaq, ou al-dukhul al-awwali, ou al-dukhul ibtida'an. Celui qui concrétise le tawhid passera directement par la case paradis. Plus encore, il ne sera même pas interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne sera même pas jugé par Allah. Il ne sera même pas châtié par Allah. Il entrera au paradis, tout droit au paradis, car il a concrétisé le tawhid. La concrétisation du tawhid, ce qui est voulu par cela, c'est tatmimu tawhid wa takmiluhu, c'est-à-dire compléter le tawhid, parachever le tawhid, le mettre en pratique entièrement, le concrétiser, réaliser la pratique du tawhid complètement. C'est ça qui est voulu par tahqiq al-tawhid. Cette même concrétisation du tawhid se divise en deux. Apprenez cela. Elle se divise en deux. Il y a at-tatmim al-wajib wa at-tatmim al-mustahab, la concrétisation obligatoire et la concrétisation fortement recommandée. Donc, ces deux catégories de personnes, que ce soit ceux qui auront la concrétisation obligatoire ou ceux qui auront le degré supérieur encore, qui est la concrétisation fortement recommandée, entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Si tu veux, tu peux dire il y a deux degrés. Le degré de ceux que l'on appelle al-muqtasidun, Al-Muqtasidun, on peut les traduire par les économes. Il y a le degré de ceux qu'on appelle As-Sabiquna bil-Khayrat, ceux qui se précipitent vers le bien. Ceux qui se précipitent vers le bien. Allah a dit dans le Coran, وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا, et à chacun des degrés en fonction de ce qu'ils ont œuvré. Donc chacun en fonction de ce qu'il va œuvrer dans cette vie d'ici-bas va avoir un mérite, une place qui lui sera attribuée au paradis s'il y entre, incha'Allah, qu'Allah nous y fasse tous entrer, qu'il sera proportionnel à ses actions. Il y a le degré, nous parlons de ceux qui ont concrétisé le tawhid, il y a le degré des économes et le degré de ceux qui ont devancé les autres dans les bonnes actions. Qu'est-ce que les savants ont donc dit concernant al-tahqiq al-wajib, la concrétisation obligatoire? On veut une définition, on veut apprendre. Le Cheikh al-Badr hafidhahullah nous donne cette définition. Il nous dit tasfiyatu at-tawhid wa tanqiyatuhu min shawa'ib ash-shirk wal-bid'i wal-ma'asi. L'épuration du tawhid. Purifier le tawhid de toute souillure du polythéisme, de l'innovation et des péchés. Tasfiyatu at-tawhid wa tanqiyatuhu min shawa'ib ash-shirk wal-bid'i wal-ma'asi. L'épuration du tawhid, la purification du tawhid de ces trois souillures qui sont ash-shirk, le polythéisme, al-bid'a, les innovations, al-ma'asi, les péchés. Amma shirk fal-akbar minhu yanqudu asla tawhid. Quant au polythéisme, si on parle du majeur, il annule la base même du tawhid, il enlève les racines de l'arbre, l'arbre disparaît. Il enlève toute la foi de la personne, elle devient donc polythéiste. Amma al-asghar, quant au polythéisme mineur, il enlève la partie obligatoire du tawhid. Pareil pour les innovations et les péchés. Car comme nous l'avons déjà dit, les degrés du tawhid dans le cœur de la personne se divisent en trois. Il y a la base du tawhid, ensuite il y a le degré obligatoire du tawhid, et en haut il y a le degré recommandé. La base du tawhid disparaît quand le serviteur associe à Allah, adore un autre qu'Allah en commettant le polythéisme majeur. La partie obligatoire du tawhid disparaît quand le serviteur commet le polythéisme mineur. Et la partie obligatoire du tawhid est aussi affectée quand le serviteur désobéit Allah ou innove dans la religion d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et en haut, il y a la partie recommandée du tawhid qui, elle, disparaît quand le serviteur délaisse les actes recommandés. Les actes recommandés du tawhid. Car j'avais fait une erreur et je l'ai corrigée au cours passé. Tayyib. À l'image d'un arbre. Un arbre, pour se tenir debout, a besoin de ses racines. Les racines, c'est la base du tawhid, la base de la foi. Si tu perds cette base, tu n'as plus de foi. Ensuite, il y a les racines. Mais il faut un tronc, des branches et des feuilles. Ce tronc, ces branches et ces feuilles, c'est la partie obligatoire. Si les troncs, les branches et les feuilles disparaissent, les racines ne servent à rien. Et la partie recommandée, ce sont les fruits. Si les fruits poussent, c'est le comble. Mais si les fruits ne poussent pas, c'est quand même un bel arbre, n'est-ce pas ? Tayyib. Ces trois choses, le polythéisme, les innovations, les péchés, ont été appelés par les savants, surnommés par les savants, al-awa'iq, les trois obstacles. Pourquoi ils les ont appelés les obstacles ? Parce que, comme nous l'avons déjà dit, dans cette vie d'ici-bas, tu chemines vers Allah, tu voyages vers la demeure dernière et tu te déplaces d'une étape, tu passes d'une étape à une autre en espérant gagner la récompense, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce cheminement, il y a des obstacles, le polythéisme, les innovations et les péchés. Quant au polythéisme, pour s'en débarrasser, il faut appliquer le tawhid. Quant à l'innovation, pour s'en débarrasser, il faut apprendre et appliquer la sunna. Quant au péché, pour s'en débarrasser, il faut se repentir. Car quoi qu'il en soit, on est amené à pécher. Mais à chaque fois, il nous est demandé de nous repentir. Et Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans le Coran ces trois catégories de personnes. Ceux qui ont concrétisé le tawhid de façon complète. C'est-à-dire qu'ils ont eu la base, la partie obligatoire et même la partie recommandée. Il a cité aussi ceux qui, de leur tawhid, ont eu la base et la partie obligatoire. Et il a même cité ceux qui ont commis des péchés. Où est-ce qu'on retrouve cela ? Dans Surat Fatir, le Créateur, dans le verset 32. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Dans le sens rapproché de ce verset, il nous dit: ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes. Qui sont-ils? Ceux qui commettent des péchés. D'autres qui se tiennent sur une voie moyenne. Qui sont-ils? Ils se contentent du minimum. Ils ont la base du tawhid et l'obligation du tawhid. Mais ils ne vont pas dans les choses recommandées, supérieures. Et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Telle est la grâce infinie. Et au verset suivant, Allah a dit: Jannatu adnin yadkhulunaha. Il a cité le paradis. Il a dit, dans le sens rapproché du verset, les jardins d'Éden où ils entreront. De qui est-ce qu'on parle? C'est trois catégories de personnes. Ils entreront tous au paradis. Et les savants, si on se mettait à vous citer tout ce qu'ils ont dit dans ce verset, ils ont dit que ce verset est un des versets qui suscite le plus l'espoir de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Car dans les trois catégories de personnes, qui sont les premiers à être cités par Allah? Ceux qui ont causé du tort à eux-mêmes. Et comment Allah les a appelés? ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Puis nous avons fait hériter le livre à ceux que nous avons élus de nos serviteurs. De les appeler comme ça, c'est qu'Allah les a élevés. Par qui est-ce qu'il a commencé? فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِ. Il y a parmi eux ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد. Il y a parmi eux les économes. Ils se sont contentés de la moyenne. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et parmi eux, il y a ceux qui ont devancé les autres par la grâce d'Allah. Pourquoi ceux qui ont dévancé les autres ont été cités à la fin? Parce qu'ils sont les meilleurs. Tu as essayé. Parce qu'ils sont plus nombreux. Toi aussi. Parce qu'ils ont concrétisé. Vous aussi. C'est plus important encore. C'est plus profond encore. Al-Sheikh Mohamed Al-Amin Al-Shamqiti rahimahullah a dit: Allah les invite à ne pas être trompés par leurs bonnes actions. Il les a cités en dernier. Ne soyez pas trompés. Et ceux qui ont commis des péchés, Allah les incite à espérer sa miséricorde. Ceux qui sont les meilleurs dans les actions, ne soyez pas trompés par vos péchés. Subhanallah. Allahu Akbar. Pardon. Ne soyez pas trompés par vos mérites et vos bonnes actions et le niveau que vous avez réussi à atteindre par la grâce d'Allah. Subhanallah. Donc, il y a deux degrés de ceux qui concrétisent le tawhid. Le premier, ceux qui ont concrétisé al-tawhid al-wajib. Al-tahqiq al-wajib, la concrétisation obligatoire. Ceux-là, ce sont al-muqtasidun, les économes. Ensuite, il y a al-tatmim al-mustahab, c'est-à-dire ceux qui ont la concrétisation recommandée, ce sont al-sabiquna bil-khayrat, ceux qui ont devancé les autres dans le bien. À part eux, il y a des gens du tawhid qui n'ont pas concrétisé le tawhid, mais ils sont morts sur le tawhid. Ce sont ظَالِمُوا لِنَفْسِ, ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Ce sont les trois catégories de Ahl al-Tawhid fi ardillah. sont les trois catégories des gens de Tawhid dans la terre d'Allah. Donc parmi ces trois catégories, il y a ceux qui ont devancé les autres et ceux qui sont les économes. Donc concrétiser le Tawhid, qu'est-ce que ça veut dire? Concrétiser le Tawhid, ça veut dire délaisser le shirk, les innovations et délaisser également les péchés ou s'en repentir dans le cas où les péchés seront commis. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils auront? Ils entreront au paradis sans jugement, sans châtiment. Pour quelle raison? Cheikh Abd al-Razzaq a dit, ils entreront au paradis sans jugement ni châtiment parce que le jugement, c'est pour celui qui a commis un péché, c'est pour celui qui a délaissé une obligation ou qui a commis un interdit, alors que ces gens-là, eux, n'ont pas délaissé l'obligation ni commis d'interdit ou alors ils se sont repentis. Donc ils ne sont pas concernés par le jugement. C'est pour cette raison qu'ils entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. وأعلى من هذا درجة et le plus haut degré c'est tahqiq al-mustahab. Donc comme on l'a déjà dit, la concrétisation recommandée. Car les gens en vérité au paradis les gens au paradis seront à des degrés différents, n'est-ce pas? Certains habiteront des demeures plus élevées que celles des autres et ainsi de suite. Dans quel point de vue ou pour quelle raison al-a'mal al-mustahabba avec les bonnes actions, les actions recommandés qu'ils ont faites dans ce bas monde. C'est ça qui va faire la différence chez les gens du tawhid. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans le tawhid, mais il y a les pécheurs qui sont ceux qui se font du tort à eux-mêmes. Ils n'ont pas concrétisé le tawhid, mais ils ont fadl le tawhid, le mérite du tawhid. Il y a au-dessus de ça ceux qui ont concrétisé le tawhid, les plus élevés. Ils ont devancé dans le bien et les économes. Ils ont fait le minimum pour concrétiser le tawhid. Ceux qui sont les plus élevés, plus ils font de bonnes actions et plus ils sont élevés au paradis et ils auront des maisons vastes et énormes en récompense pour leurs actions. Tayyib. En réalité, tahqiq al-tawhid huwa tahqiq al-shahadatayn. La concrétisation du tawhid n'est rien d'autre que la concrétisation des deux attestations de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Pourquoi? Parce que lorsque l'on concrétise la ilaha illallah, forcément, qu'est-ce qu'on va délaisser? Ash-shirk al-akbar wal asghar. Le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Et lorsque l'on concrétise Muhammadun rasulullah, qu'est-ce que l'on va délaisser forcément? Les innovations ainsi que les péchés. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a invités à délaisser les innovations, les péchés et à se repentir. Alayhi salatu wa salam. Voici donc la concrétisation du tawhid. Amen. Donc, celui qui a une défaillance dans son tawhid, pas au niveau d'annuler la base, donc celui qui a une défaillance dans le tawhid mais qui n'a pas fait disparaître la totalité de son tawhid, celui-là entrera au paradis parce qu'il a le mérite quand même du tawhid qui est l'entrée au paradis. Mais il se peut qu'il soit châtié avant cela. Dans le cas où Allah décide de le châtier, subhanahu wa ta'ala, il le jugera et il se peut qu'après cela, il le châtie, tabaraka wa ta'ala. Voici donc la parole concernant l'introduction et la compréhension de ce chapitre. Le premier verset cité par l'auteur, rahimahullah, wa qawli Allahi ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal mushrikin. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le sens rapproché bien sûr, Ibrahim était un guide parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Verset 120 de Surat An-Nahl, les abeilles. L'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, a donc cité ce premier verset dans ce chapitre pour nous enseigner que celui qui désire et souhaite concrétiser le tawhid, doit d'abord regarder les caractéristiques de ceux qui l'ont fait, de ceux qui l'ont concrétisé. C'est comme si que l'auteur nous dit, celui qui concrétise le tawhid entrera au paradis sans jugement. Voulez-vous savoir comment concrétiser le tawhid? Je vous donne l'exemple d'Ibrahim alayhi salam. Regardez sa description, c'est la description de ceux qui concrétisent le tawhid. Vous avez compris? C'est pour cette raison que l'auteur a cité ce premier verset. Et n'est-ce pas que Ibrahim alayhi salam a été cité dans le quatrième verset de Surat Al-Mumtahana, l'éprouvé? Il a été décrit par Allah comme étant un modèle à suivre pour nous autres les croyants. Dans le sens rapproché du verset, donc le verset « Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'a al-aya » Dans le sens rapproché, certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Donc ici, Allah nous montre que Ibrahim alayhi salam est un exemple à suivre. Il est un modèle, un exemple à suivre. On doit se référer à lui dans les actes, dans les paroles, dans la mise en pratique du tawhid, dans la compréhension de la ilaha illallah. Ici, Allah nous enseigne que nous devons prendre des imams comme guides, car le terme imam, parmi ses sens, il y a le guide, celui qui dirige les gens, celui qui est l'exemple, celui qui montre l'exemple et le modèle à suivre à autrui, n'est-ce pas? Et certes, beaucoup de gens ont été éprouvés par l'égarement, car ils ont pris en dehors des vrais imams qu'il fallait suivre, d'autres imams qui sont égarés. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith « Inna akhwafa ma akhafu alaykum al-a'immat al-mudillin » Ce dont je crains le plus pour vous, ce sont les imams égareurs, c'est-à-dire les guides qui égareront les autres. Et c'est pour cela que dans certaines tendances erronées, lorsqu'on les appelle à la parole d'Allah, ils répondent « Cette compréhension » ou cette façon de pratiquer, on ne l'a pas vu chez nos imams, on ne l'a pas vu chez nos guides, chez nos maîtres, et toutes sortes de mots qu'ils emploient à mauvais escient, malheureusement. Et c'est pour ça que Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, dans un de ses ouvrages, a parlé du tawhid et a dit « Wa dalla alayhi al-kitabu wa sunna wa al-fitra wa al-a'imma » Il a dit « Le tawhid est prouvé par le Coran » par la sunna, par la prime nature, al-fitra, quand tu nais sur la base qui est le tawhid, et les imams. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça, rahimahullah? Il s'adresse à des gens qui disent, nous suivons nos imams. Et lui leur répond, vous voulez suivre les imams? Je vous propose un des meilleurs imams. Je vous propose Ibrahim. Allah dans le Coran a dit, inna Ibrahim kana umma. Ibrahim à lui tout seul est une communauté, un guide parfait pour les gens. Vous voulez suivre un imam, mettons-nous d'accord sur les meilleurs qu'Allah a cités dans le Coran. Suivons Ibrahim, alayhi salam. Alors que ceux qui suivent les imams égarés, Allah a dit dans le Coran qu'ils diront Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Dans Suratul Ahzab, les coalisés, la dernière page, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'ils diront Ô notre Seigneur, nous avons suivi nos grands et nos maîtres. Ils nous ont égarés du droit chemin. Rabbana atihim di'afayni min al-'adhab wa al'anhum la'nan kabira. Ô notre Seigneur, inflige-leur un châtiment doublé et maudit-les. Subhanallah. Regardez les imams qu'ils ont suivis. Qu'est-ce qu'ils vont devenir à la fin? Eux-mêmes, les suiveurs, vont les maudire. Wal'iyadu billah. Donc, dans ce premier verset, Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, nous enseigne que l'on doit suivre Ibrahim. Et qu'il est décrit comme étant un imam, une umma. Et le terme umma dans le Coran a différents sens, parmi lesquels imamun fil khair. Un imam, un guide, un modèle dans le bien. Alayhi salam. Les caractéristiques de Ibrahim, alayhi salam, qui ont été citées ici, sont au nombre de quatre dans ce premier verset. La première, inna Ibrahim kana umma. Ibrahim est un guide parfait. À lui tout seul, il est un guide parfait. Certains savants ont dit umma, c'est-à-dire une communauté. C'est-à-dire qu'Ibrahim, à lui tout seul, est comme une communauté entière d'adorateurs d'Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, le sens de Umma ici, à Sheikh Abdurazzaq a dit, implique deux sens inséparables. Le premier, toutes les caractéristiques du bien ont été réunies en lui. Ijtama'at fihi sifatul khayr wa ma'ani al-fadl. Toutes les caractéristiques du bien sont réunies dans le personnage qui est ce noble et bien-aimé prophète Ibrahim alayhi salam. La deuxième chose que l'on tire de ce descriptif, Ummah, un guide parfait, annahu qudwa, qu'il est un modèle, puisque toutes les caractéristiques du bien se sont réunies en lui, forcément, il en découle de cela qu'il est un modèle à suivre, alayhi assalam. La deuxième chose, qanitan lillah. Qanitan lillah, Naam. Qanitan lillah, ils l'ont traduit par soumis à Allah, c'est-à-dire parfaitement soumis à Allah, car en vérité qanit vient du verbe qanata et l'infinitif c'est al-qunut, et al-qunut c'est la constance dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que comment est-ce que l'on appelle les invocations dans le Tarawih? Dua al-Qunut. Pourquoi? Parce que celui qui invoque est constamment debout pendant ses invocations. Ici, il s'agit de la constance dans l'obéissance à Allah. Si on dit « Hadha rajulun qanit », cet homme-là est « qanit », cela voudra dire qu'il est constant dans l'obéissance d'Allah et il est humble. Il est plein d'humilité. Il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième caractéristique du verset, Hanifa. Hanifa, ils l'ont traduit par voué exclusivement à lui. Hanifan, voué exclusivement à lui. Le terme Hanif vient du terme Hanf. Et Hanf, c'est le fait de pencher vers quelque chose. Pourquoi est-ce que l'on appelle Hanif? C'est-à-dire celui qui a été vers Allah, tabaraka wa ta'ala, et qui a penché de l'adoration d'autre qu'Allah vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a expliqué le terme hanif, a dit al-hanif huwa al-muqbilu 'ala Allah al-mu'ridu 'an man siwah. Le hanif, c'est celui qui avance vers Allah en se détournant de tout autre que lui subhanahu wa ta'ala. C'est donc celui qui est pleinement soumis à Allah, celui qui concrétise le tawhid, celui dont le cœur n'est rattaché qu'à son créateur et à personne d'autre, il ne se soumet qu'à lui. Et dans son cœur, il n'y a aucune place pour un autre qu'Allah. Il est parfaitement dévoué et soumis à son créateur. وَلَمْ يَكُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Et il n'était point du nombre des associateurs. Il y a dedans le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Ibrahim alayhi salam était à lui tout seul un homme qui a réuni en lui toutes les caractéristiques du bien, si bien qu'il est devenu un modèle. Il était constamment dévoué à Allah, pleinement soumis à lui. Il ne se dirigeait vers personne d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala et ne faisait pas partie des associateurs. Plus encore, il s'en est même désavoué alayhi salatu wa salam. C'est donc la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée d'Ibrahim. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans le Coran que Ibrahim alayhi salam s'est désavoué de son peuple et leur a dit وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي. Subhanallah. Il leur a dit je m'en vais vers mon Seigneur. Ça c'est tawhid dans les veines. Tawhid dans le cœur, dans le sang, tawhid dans la vie. Je m'en vais vers mon Seigneur. Subhanallah. Allahu Akbar. Est-ce que cela veut dire qu'il va aller dans un endroit spécifique? Il s'en va vers Allah, il fuit avec sa religion, il fuit avec son tawhid. Il quitte l'adoration de tout autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Où sont les gens qui sollicitent, qui implorent, qui invoquent d'autres qu'Allah, subhanahu wa ta'ala? Que ce soit un prophète, un ange, un homme qui est décrit comme étant vertueux, saint, qui est mort sous une tombe, hein, il délaisse le Créateur Tout-Puissant au-dessus du ciel, des cieux, pour aller vers la faible créature en dessous de la terre. Quand tu tombes dans le shirk, même la raison, elle disparaît. Et c'est pour ça que le shirk Muhammad Aman al-Jami, rahimahullahu ta'ala, a dit, celui qui entre dans le soufisme, au début du matin, en une journée, s'il entre et il adhère à ses convictions et ses croyances de soufisme, la première moitié de la journée, il commence à s'égarer, et à la fin de la soirée, il a perdu toute sa raison. Il a perdu toute sa raison, parce que ces gens-là décrivent autre qu'Allah comme on doit décrire Allah. Il nous entend, il nous voit. De qui tu parles ? De quelqu'un en dessous de la terre, à des milliers de kilomètres ? Comment il peut t'entendre ? Subhanallah. Allahu musta'an. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous guide dans son droit chemin. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala a décrit Ibrahim par ses quatre attributs. Deuxième verset. قال الله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون et ceux qui n'ont rien associé et qui n'ont point associé à leur Seigneur. Ce verset contient, comme le dit notre cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله هذه الصفة من الصفات التي ذكرها الله في سورة المؤمنون. C'est un qualificatif, une description qu'Allah nous a donné dans surat Al-Mu'minun, les croyants, fis-sabiqina bil-khayrat, concernant la catégorie de ceux qui devancent les autres dans le bien, dont nous avons parlé tantôt. قال الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. Donc ce sont des caractéristiques qu'Allah a citées. La première, ceux qui sont pleins de crainte de leur Seigneur. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون et ceux qui croient aux signes de leur Seigneur. والذين هم بربهم لا يشركون et ceux qui n'associent rien à leur Seigneur. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون et ceux qui donnent ce qu'ils donnent ayant les cœurs apeurés à l'idée de rencontrer et de revenir vers leur Seigneur. Allahu Akbar. Aïcha radiallahu anha a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ces gens. S'agit-il des gens qui consomment l'alcool? S'agit-il des gens qui volent, qui forniquent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yabnat as-siddiq. Non, ô toi la fille du grand véridique. Mais ce sont des gens qui prient, qui jeûnent et qui donnent des aumônes, mais ils craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sont ceux qui ont concrétisé at-tawhid et qui ont gagné donc ces immenses mérites. Et le Cheikh Saleh Al-Fawzan, jazakallahu khairan, a décrit tous ces points. Et lorsqu'il est arrivé à la parole walladhina hum bi rabbihim la yushrikun et ceux qui n'associent rien à leur Seigneur, il a dit hadha huwa tahqiq at-tawhid. Voici la concrétisation du tawhid. La yushrikuna abada. Ils n'associent rien jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Shirkan, la shirkan asghar, wa la shirkan akbar. Ils ne commettent pas l'association majeure ni l'association mineure. Subhanallah. La yaqa'u minhum shirkun abada. On ne voit d'eux aucune forme de polythéisme. Ha'oula, alladhina haqqaqu at-tawhid. Ceux-là sont ceux qui ont concrétisé at-tawhid. Wa salimu min ash-shirk al-akbar wal asghar. والخفي والجلي وكل أنواع الشرك والبدع والمخالفات. Ils sont ceux qui ont été préservés de l'association majeure, mineure, apparente et cachée, des innovations et des désobéissances. Donc, pour arriver à ce degré-là, est-ce que tu peux si tu n'étudies pas? Est-ce que tu peux atteindre ce degré de concrétisation du tawhid si tu croises les bras et tu n'apprends pas qala Allah, qala Rasulullah? Ya ikhwan, oh et frère, on parle de concrétisation du tawhid. Ça mérite quand même dans ta vie que tu apprennes kitab ou tawhid. Ça mérite quand même dans ta vie que tu connaisses les arguments d'Allah subhanahu wa ta'ala, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, apprenez kitab al-tawhid, tous, apprenez qala Allah, qala rasulu sallallahu alayhi wa sallam, et après, ce qu'il faut, c'est s'efforcer de mettre en pratique pour essayer d'atteindre ce niveau. Nas'alallaha min fadlih. On demande à Allah de nous accorder de ses grâces. Subhanahu wa ta'ala. Nous allons nous arrêter ici, inshallah, et on terminera le dernier hadith de ce chapitre au prochain cours. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.